Le journal de l'économie avec François Geffrier.
6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. Le CAC 40 prend un peu plus d'altitude au-delà des 8000 points pour la première fois de son histoire. Les 50 ans de Roissy Charles de Gaulle, nous serons en ligne avec le patron de l'aéroport. Et puis pourquoi les femmes réunissent en moyenne moins d'argent que les hommes pour créer leur entreprise. L'événement est à la une de la presse économique. Les 8000 points, le CAC 40 a dépassé hier pour la première fois ce seuil symbolique. Éric Mauban, l'indice principal de la Bourse de Paris au plus haut de son histoire, aidé par la Banque Centrale Européenne.
Oui, comme prévu, l'autorité monétaire européenne n'a pas modifié sa politique de crédit. En revanche, elle a revu à la baisse sa prévision d'inflation pour cette année à 2,3% contre 2,7% précédemment. Une prévision qui se rapproche donc de l'objectif de 2% de la Banque Centrale. En conséquence, eh bien, les investisseurs ont été confortés dans l'idée qu'une baisse des taux pourrait intervenir au mois de juin, faciliter l'octroi de crédit pourrait dynamiser un peu une économie européenne en perte de vitesse, de quoi doper les marchés d'actions, d'autant plus que les premiers résultats des sociétés françaises s'avèrent meilleurs que prévu. Hier, le CAC 40 a donc terminé la séance à 8016 points, en hausse de 6,2% depuis le début de l'année et de 18% depuis la fin octobre.
Le CAC 40 qui est en quelque sorte auto-nettoyant, puisque les valeurs devenues trop petites en sont exclues, au gré des réunions du conseil scientifique d'Euronext. Hier soir, c'est Alstom qui en a fait les frais.
Effectivement, le 18 mars, Alstom laissera sa place à Accor. Le groupe hôtelier, après 3 ans et demi d'absence, fait son retour au sein du CAC 40. Il avait été victime des conséquences brutales de la pandémie de Covid-19. Le groupe est désormais sur le point de retrouver son rythme de croisière. En bourse, l'action a gagné 24% en un an, valorisant Accor à près de 10 milliards d'euros. C'est plus de deux fois la capitalisation d'Alstom, dont le cours de bourse a chuté de 56% en un an, sous le poids d'un endettement excessif.
Éric Mauban, direct, et pour la petite histoire, c'est Alstom qui avait bouté Accor hors du CAC 40 il y a 4 ans. Alors les marchés financiers en dehors du CAC 40, eh bien le Dow Jones a gagné 0,34%, le Nasdaq 1,5%, le Nikkei en ce moment progresse de 0,33%, l'euro ne bouge pas, il est à 1,0946 et le baril de Brent est à 83$. On évoquait la journée internationale des droits des femmes avec Quentin Périnel il y a 3 minutes. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à monter leur entreprise. Elles représentent aujourd'hui 43% des nouveaux dirigeants. Mais on est frappé par certaines réalités. Une dirigeante sur 5 estime qu'elle ose moins que les hommes demander un crédit et des financements pour créer son entreprise. Selon un baromètre que publie aujourd'hui France Active et la Fédération bancaire française, Zoé Pallier.
Pour monter sa structure d'économie circulaire, Nocklan Loy avait besoin de 100 000 euros. Pourtant, elle n'en a d'abord emprunté que 30 000 à la banque.
Je ne pensais pas que moi, j'étais capable de demander autant d'argent. Et je me posais des tas de questions. Je me disais, comment je vais faire? Est-ce que je vais devoir vendre ma maison? Comment on va rembourser?
Les femmes proposent souvent des projets moins ambitieux en plusieurs étapes. Fanny Jérôme est la directrice adjointe de France Active qui accompagne des entrepreneurs.
Un plan de financement moyen à France Active, c'est 85 000 euros pour un homme et on est à 72 000 euros pour une femme. Après, sur des projets de start-up plus innovants dans la tech, là, les femmes n'accèdent pas du tout aujourd'hui à des fonds d'investissement. On parle de 3% des fonds d'investissement qui vont vers des projets portés par des femmes.
Des expériences en sciences sociales prouvent d'ailleurs l'ampleur des biais sexistes dans les choix que font les investisseurs, pointe Marianne Sitchkoff, chercheuse spécialiste de l'entrepreneuriat.
La femme investisseuse, quand elle va se trouver en situation de minorité parmi les autres hommes investisseurs, elle-même va avoir ce stéréotype de genre renforcé. Donc, elle va moins prendre de risques et elle va avoir un vote qui pourra du coup être contraire à l'intérêt des femmes porteuses de projets.
Les femmes restent donc majoritairement à la tête de petites structures et les auto-entrepreneuses gagnent en moyenne 19% de moins que leurs homologues masculins.
Zoé Pallier, il est 6h53, un morceau d'histoire de l'aviation dans ce journal de l'économie. Après le Bourget, il y avait eu Orly, mais bien vite l'aéroport était déjà trop petit. C'est donc à Roissy que s'est installé le troisième aéroport de la capitale il y a tout juste 50 ans. Bonjour Régis Lacote.
Bonjour.
Vous êtes l'actuel directeur de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, inauguré le 8 mars 1974, il y a 50 ans, par Pierre Messmer. Alors, c'est l'architecte Paul Andreu qui en avait conçu les plans. Comment a-t-il travaillé? Quelle était l'idée générale?
Paul Andreu, à l'époque, il s'est entouré de toute une équipe qui avait constitué de sociologues, de chefs publicistes, de coloristes, de décorateurs. Il y avait des grands noms autour de lui. C'était une équipe qui avait une vision, on va dire, très futuriste, très en avance du développement des aéroports pour le futur. On est aussi à l'époque de la conquête de l'espace. Et donc, c'est cette vision collective qui a abouti à ce terminal circulaire avec ces 7 satellites autour qui visait à la fois à rapprocher les passagers de façon à ce qu'ils puissent avoir des distances qui soient toutes égales pour rejoindre leurs avions, à maximiser le nombre d'avions qu'on mettait au contact du terminal. Et on était effectivement dans cette vision un peu de la conquête spatiale de l'aéroport.
Et alors, avec le recul, est-ce que c'est une infrastructure qui a été bien pensée, qui a bien rempli son rôle ?
Alors, depuis 1974, l'aéroport, il a beaucoup évolué. Il a vu son développement marqué par 4 pistes toutes parallèles, qui en fait aujourd'hui un des aéroports les plus efficaces en termes d'opérations aériennes en Europe et au monde. Il a vu les accès ferrés se développer pour à la fois le connecter à la capitale, mais aussi dans les années 90 avec l'arrivée du TGV et de la gare TGV. Et donc, c'est un aéroport qui n'a jamais cessé de se repenser, d'évoluer avec son temps et d'innover. Et donc, oui, il a pleinement rempli son rôle puisqu'il est devenu aujourd'hui un champion au niveau mondial, aussi bien en termes de trafic, puisque c'est le premier aéroport d'Europe, mais aussi en termes d'expérience client. C'est pas nous qui le disons, c'est Skytrax qui l'a élu meilleur aéroport d'Europe.
Et alors, le trafic aérien est amené à progresser encore énormément. À quoi ressemblera Roissy dans 15 ou 30 ans?
Alors, Roissy, dans 10 à 15 ans, ça va être un aéroport très connecté au territoire, très connecté au réseau ferré. La gare de CDG2, qui est déjà centrale dans nos opérations, puisqu'il y a 15 millions d'usagers par an qui l'empruntent, est amenée à doubler en termes de trafic. D'ici à 2030, on va passer à 30 millions d'usagers, avec l'arrivée du CDG Express, la ligne 17, le 3 Express Roissy-Picardie. Et continuera encore à se développer avec le développement de la connectivité entre le fer et l'air. Et on pense même l'amener jusqu'à 45 millions d'usagers dans le futur. Et donc, oui, ça va être un aéroport très connecté à ses territoires et donc très respectueux aussi de l'empreinte de nos opérations. Et c'est ce que toutes les équipes du groupe ADP et toute la communauté, les compagnies aériennes, les assistants d'escale sont en train de développer avec la décarbonation de nos opérations et notamment en passant par la décarbonation des opérations au sol.
Merci Régis Lacote, directeur de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, invité ce matin du journal de l'économie de Radio Classique. Au moment des JO cet été, il n'y aura pas de grève dans les tours de contrôle, promettent en tout cas les contrôleurs aériens, mais ailleurs, ça n'est pas si sûr. Hier, la CGT a affirmé qu'elle déposerait un préavis de grève pour la période du 26 juillet au 11 août, la période des Jeux, et ce, dans toute la fonction publique, ce qui ajoute ce secteur à la longue liste de ceux qui menacent déjà d'arrêter le travail, Eric Huoche.
Que se passera-t-il si les services de l'État, des territoires, mais aussi les hôpitaux se mettent à l'arrêt pendant les JO? La balle est dans le camp de l'exécutif, assure les syndicats. Nous voulons que le gouvernement prenne les mesures immédiatement pour assurer la réussite des Jeux, a lancé Sophie Binet hier. Autre menace, les pompiers qui font monter la pression, ils ne pourront pas prendre de congé cet été, alors qu'ils se disent déjà débordés. À Paris et à Marseille, le risque de perturbation est nul. Les pompiers y sont militaires et n'ont pas le droit de grève, mais sur d'autres sites, comme à Bordeaux, Nantes, Lille, où des épreuves des JO auront lieu, cela peut virer au casse-tête. Idem chez les policiers municipaux qui réclament des hausses de salaire. Une revendication que partagent les cheminots de la SNCF et de la RATP, dont le préavis court déjà depuis le 5 février. Cela ne signifie pas forcément une grève, mais permet aux syndicats de maintenir la pression, alors que 20 000 agents de la RATP seront mobilisés quotidiennement durant les Jeux. La pagaille serait monstre en cas de mobilisation.
Eric Cuoche, dans un instant... David Abitur.